Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules pour laquelle nous avons la chance d'être en compagnie de Sybille Boxeau. Sybille Boxeau, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour, pas de souci, c'est gentil.
Alors vous êtes géologue, doctorante au laboratoire J-Time de l'ULB et vous revenez d'une récente mission en Antarctique, un séjour de 2 mois dans la station Princesse Elisabeth. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quelle était votre mission sur place ?
Alors, ma mission avait en fait pour but de remplir quelques objectifs du projet Passepartout, donc un projet qui est financé par Belspo. C'est un projet en fait qui est régi par 4 institutions. Et moi, mon objectif là-bas, c'était d'étudier en fait les poussières de manière saisonnière qui précipitent en Antarctique. C'est dans les grandes lignes, c'était ça.
Alors, c'était la première fois que vous vous rendiez en Antarctique, je pense. Quelle est la première impression que donne cette région quand on s'y rend pour la première fois?
Ah, c'est vrai que c'était une première en effet pour moi et c'est vraiment complètement magique cet endroit, c'est vraiment complètement dépaysant. Pourtant on se dit, c'est vrai qu'on a encore la chance de pouvoir parfois se rendre en montagne ou autre, de la neige, en Europe on en voit quand même un petit peu, mais là c'est complètement différent, vraiment, c'est magnifique, vraiment magnifique.
Alors on a un peu cette image de vaste étendue blanche à perte de vue, est-ce qu'il est si uniforme finalement qu'on peut se le représenter ?
Alors oui, c'est vrai qu'on s'imagine plutôt un désert de neige et de glace. Moi, c'est l'idée que j'en avais, c'était vraiment une étendue infinie de neige, de glace et autres. Et en effet, on a ces étendues qui apparaissent. Mais moi, j'étais aussi principalement basée proche de la station Princesse Elisabeth en Antarctique. Et là, on est vraiment au pied d'une chaîne de montagnes, si je puis dire ça ainsi, qui s'appelle les Sorondeignes. Donc on a du relief. En effet, on a des pans de roches qui affleurent et autres. Et c'est assez impressionnant de voir ça au milieu de nulle part, comme ça tout d'un coup, une montagne qui apparaît et qui se détache de cette étendue blanche, c'est vraiment magnifique. Vraiment.
Et une question qui peut paraître peut-être un peu triviale, mais finalement, comment est-ce qu'on se rend sur place ? Par où est-ce qu'on passe ?
Alors, y a différents moyens, je sais que ça dépend un peu de l'expédition que vous employez, certains s'y rendent en bateau, d'autres en avion. Pour ma part, c'était en avion. Et comme on se rendait aux alentours de la station Princesse Elisabeth, où on est parti de l'endroit sur Terre qui est le plus proche en fait de la station, c'est-à-dire Cape Town, donc en Afrique du Sud. On s'est rendu du coup là-bas depuis Bruxelles, tout simplement, comme si on partait en vacances. Sauf que là-bas, nous attendait un autre avion, un peu plus atypique celui-là, puisqu'il était préparé pour atterrir sur une étendue de glace, disons, ce qui est un peu atypique habituellement. Et puis du coup, de cet atterrissage, on a pu directement se rendre à la station assez vite, heureusement. Donc ça, c'est assez pratique, en effet.
Alors cette station Princesse Elisabeth, elle est située à 1400 mètres d'altitude. Finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y rendent chaque année ?
Alors chaque année, il y a toutes les personnes qui doivent gérer la station, c'est-à-dire faire des réglages au niveau plomberie, mécanique et autres. Il y a énormément de choses à faire dans la station et ces personnes sont une petite quinzaine toujours à s'y rendre. Et en plus de ces 10-15 personnes qui sont là pendant les 4 mois de la saison où la station est ouverte, il y a en plus du coup des scientifiques un peu comme moi qui viennent faire leur mission ou alors des personnes qui viennent pour quelques nuits pour refueler un peu leur appareil avant de repartir par exemple. Et donc on peut se retrouver autant à une dizaine qu'à une trentaine dans la station, ce qui est assez perturbant parfois d'une journée à l'autre. On double nos effectifs et on ne s'en rend même pas compte. Donc c'est voilà, on est aux alentours d'une vingtaine quand la saison scientifique est bien lancée et ils sont normalement, pour finir et pour commencer la saison, une bonne dizaine, une bonne quinzaine normalement, en général.
Alors vous l'avez mentionné, une partie de votre mission est donc d'étudier cette poussière de roches qui sont présentes sur le continent. Finalement, pourquoi les étudier ?
Ah, bonne question, tout ça. En effet, on se pose toujours la question, mais c'est un peu bizarre. Pourquoi pas juste prendre un aspirateur ? On en a des poussières, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Alors pourquoi c'est intéressant en Antarctique de les étudier ? Tout simplement parce que les poussières, quand elles se déposent, notamment sur la glace, elles peuvent avoir des impacts sur l'environnement autour d'elles. Un des exemples, par exemple, d'impact, c'est par exemple que la poussière, c'est beaucoup plus foncé que la neige, que la glace, par exemple. Et donc, vous avez ce phénomène qui est partout sur Terre, où l'énergie solaire qui arrive sur Terre est soit réfléchie ou absorbée par la matière qui rentre en contact avec elle. Quand vous avez de la glace qui est très blanche et haute, la lumière est complètement réfléchie. Donc on ne garde aucune énergie solaire quasiment. Enfin, si la lumière est haute, mais l'énergie vraiment pour réchauffer s'en va assez vite. Par contre, si vous avez de la poussière qui arrive dessus, la poussière, c'est souvent grisâtre, brunâtre, noirâtre et autres, et donc automatiquement, la surface s'obscurcit. Et à ce moment-là, en fait, la lumière n'est plus complètement réfléchie, comme si on avait uniquement de la glace. Si on a de la poussière en plus, il va y avoir de l'énergie solaire qui va être absorbée, et donc automatiquement, ça va réchauffer la glace, qui va peut-être plus favorablement fondre et beaucoup plus vite en fait que si elle n'avait pas été recouverte par ces poussières. Et donc en fait les aérosols de poussière peuvent entraîner une fonte des glaces accélérée surtout en Antarctique, au Groenland et sur d'autres glaciers. Et donc mieux comprendre comment elles se déposent, d'où elles viennent et quel est leur impact sur tout le reste de l'environnement, qu'est-ce qu'elles font par exemple sur les micro-organismes et autres sur place, ça nous permet un peu mieux de comprendre notamment ce paramètre de potentiellement réchauffement climatique qu'elles entraînent en se posant sur la glace, par exemple.
Et justement, un des aspects qui vous intéresse dans l'étude de ces poussières, c'est retracer leurs sources, de trouver d'où elles proviennent.
Exactement, oui, tout à fait. Moi, mon rôle ici, c'est d'essayer de comprendre d'où elles viennent, pour en fait essayer de comprendre la circulation atmosphérique, donc c'est-à-dire les masses d'air autour de l'Antarctique, comment elles transportent ces poussières, comment elles circulent, si je peux dire ça ainsi. C'est-à-dire, par exemple, des poussières qui viennent d'Afrique, peuvent-elles arriver jusqu'en Antarctique ou est-ce impossible? Est-ce qu'elles vont aller ailleurs, par exemple? On a déjà prouvé par d'autres études qu'en effet, on peut retrouver en Antarctique des poussières d'Afrique, d'Amérique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, bon, des poussières aussi d'Antarctique, évidemment, puisqu'on est tout près, ce serait dommage de ne pas en retrouver, et on en retrouve bien, donc on comprend en fait grâce à ça les circulations autour de l'Antarctique et potentiellement du coup les impacts aussi qu'on peut avoir à grande distance sur l'Antarctique. Par exemple, quelqu'un qui est peut-être ici en Amérique ou en Antarctique, peu importe, il se rend pas compte, peut-être potentiellement, il génère des poussières anthropiques ou enfin de l'être humain ou même des poussières naturelles, des poussières de roche. Il suffit de casser une roche et de la poussière s'élève, elle se fait emporter par le vent et elle atterrit peut-être en Antarctique. Et sensibiliser, je trouve, à ça, c'est assez important, surtout à l'heure actuelle.
Et justement, comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on se renseigne sur l'origine de ces poussières de roche?
Alors, c'est assez à la fois simple et compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va du coup analyser dans les poussières qu'on a retrouvées en Antarctique leur signature chimique, donc leur signature géochimique même plus précisément. On va sélectionner en fait certains éléments chimiques qu'on sait qui ne vont pas changer pendant le transport. C'est-à-dire que, vous savez, parfois certains éléments chimiques qui peuvent, par exemple, s'ils sont influencés par la pluie ou autre, bouger et donc ne plus être le même qu'à leur départ de leur zone où elles ont été générées. Du coup, en fait, on essaye de récolter ces 14 éléments chimiques dans les poussières. On les mesure dans nos appareils ici en laboratoire. On fait des mesures assez fastidieuses, mais on y arrive sans problème au laboratoire G-Time. On mesure du coup ces 14 éléments chimiques et on fait de même avec des roches partout sur Terre. C'est-à-dire que on va échantillonner des roches, des sédiments, par exemple au Sahara, par exemple en Australie, en Afrique et autres. Et on va à nouveau analyser ces 14 éléments chimiques. Et en fait, simplement, on va comparer ces signatures à la fois de nos poussières et les signatures du coup chimiques de 14 éléments pour nos roches, et on va les faire matcher puisqu'en fait ils fonctionnent un peu comme une carte d'identité de la poussière. Comme ils sont conservés, si on regarde les 14 éléments chimiques de notre poussière, on peut dire « Ah, c'est fou, on a la même signature que par exemple cette roche qui vient d'Afrique. » Et donc la poussière que j'ai ici en Antarctique, elle provient de cette zone-là précisément.
Donc cela nécessite d'avoir étudié la région supposée, d'où sont issues ces particules.
Exactement, tout à fait. Donc en fait, on mène deux études en parallèle pour ce cas-ci, qui, on va dire, ne vont servir pour qu'une seule grande étude. C'est, on étudie des roches et autres sédiments partout dans le monde, surtout dans l'hémisphère sud pour l'Antarctique, et on essaye de comprendre, s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient générer des poussières. Pour ce faire, on utilise énormément les données, par exemple, satellites, pour essayer d'observer, par exemple, les tempêtes de poussière ou autres, ou alors on estime, vu les circulations, il devrait y avoir, du coup, cette zone-là qui devrait potentiellement influencer l'Antarctique, et donc on essaye d'aller investiguer un peu plus et de mieux comprendre de plus en plus d'où viennent donc ces poussières en Antarctique à chaque fois. Notamment pour cette mission-ci, on avait investigué énormément dans l'hémisphère sud, mais on a en plus encore plus investigué même les roches d'Antarctique elles-mêmes qui sont autour de la station pour être sûr qu'on n'a pas une signature parfois simplement de l'Antarctique elle-même. On a bien une signature, c'est vrai, d'ailleurs, mais parfois il y avait certaines signatures dans nos précédents échantillons qu'on n'arrivait pas à identifier complètement, et potentiellement, en fait, c'est du local, donc simplement des poussières d'Antarctique qui ne sont pas allées si loin que ça, qui sont restées en Antarctique et qu'on retrouve, du coup, avec nos poussières d'Afrique, d'Amérique et autres, dans nos échantillons.
Et quelles sont les régions identifiées, hein, les plus courantes, finalement, que l'on retrouve sur le continent antarctique, d'où sont issues ces particules, ces poussières.
Pas de souci. On peut aussi les appeler particules inorganiques, les poussières, c'est une autre appellation. Donc ces poussières, pour l'instant, en Antarctique, on a repéré quelques zones qui étaient assez génératrices de ces poussières. Vous avez la Patagonie, qui est assez... qui en donne énormément à l'Antarctique, qui produit énormément de poussière qui arrive en Antarctique. Et vous avez aussi la Namibie en Afrique qui, elle, produit aussi énormément de poussière et qui arrive là-bas. Mais alors évidemment, ça, ce sont les deux plus grands générateurs, si je peux dire ça ainsi, de poussière. Mais on retrouve aussi une tendance à des poussières d'Australie, par exemple, et de Nouvelle-Zélande, mais en plus petite quantité, donc en moins grande contribution, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que pour l'instant, les études qu'on mène sur les poussières qu'on récolte, notamment dans cette mission-ci, sur les poussières qu'on trouve dans de la neige, c'est ce qu'on appelle des poussières modernes, donc c'est des circulations atmosphériques actuelles. Par contre, ce qu'on mène aussi comme type d'étude en parallèle, ça je n'ai pas été faire pour cette mission-ci, mais c'est une étude qu'on réalise dans nos laboratoires, c'est étudier des carottes de glace pour comprendre la même chose, mais à l'échelle temporelle, c'est-à-dire que on comprend les circulations atmosphériques il y a par exemple des millions d'années, de ça grâce à justement les enregistrements de poussière dans des carottes de glace, par exemple.
Et justement, est-ce qu'on a une vision de ces variations temporelles, hein, de la présence de ces poussières? Et qu'est-ce que cela nous dit?
Oui, ça dit énormément de choses. Bon, c'est des études qui sont en cours et que je mène notamment pour ma thèse et qui ont déjà été menées par quelques personnes uniquement parce que c'est une étude, enfin, c'est un type d'étude assez récent. Peu de personnes s'y étaient intéressées auparavant, surtout avec l'aspect poussière en géologie. Et donc, du coup, on a déjà pu identifier pas mal de variations, de grandes variations au cours du temps. Il y a eu toute une époque où, par exemple, certaines zones de l'Antarctique étaient beaucoup plus influencées par des poussières venant d'Afrique. Et parfois, c'était, par exemple, beaucoup plus une présence de la Patagonie, ou en tout cas d'Amérique et autres. Et tout simplement, il suffit que, par exemple, la zone où vous générez vos poussières soit, par exemple, à ce moment-là, sous eau. Ou simplement qu'il y a un glacier qui recouvre ces poussières qui les empêche du coup de se déplacer jusqu'en Antarctique. On peut du coup étudier en fait en plus des circulations atmosphériques les atmosphères et le climat sur les zones génératrices, puisque si on sait que normalement cette zone-là génère des poussières, si elle n'en génère plus pendant tout un temps, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et en corrélant ça avec d'autres études justement dans des carottes ou même dans d'autres types d'échantillons qui nous permettent de remonter dans le temps, on se rend compte, mais à cette période-là, en fait, il y avait ceci comme climat là-bas. Et donc, automatiquement, c'est normal qu'on n'a pas retrouvé de poussière, puisque, voilà, c'est un indice supplémentaire pour comprendre un peu mieux le climat dans le temps aux différentes zones qu'on étudie dans l'hémisphère sud, en fait.
Et en ce qui concerne les études que vous menez maintenant, finalement, quelle est la région qui est couverte par ces recherches?
Alors, pour cette mission-ci, cette expédition en Antarctique de cette année, j'ai vraiment juste couvert la partie nord-est de l'Antarctique, donc vraiment ce qu'on appelle le Drowning Maud Land. C'est la zone où se trouve la station Princesse Elisabeth, donc c'est-à-dire qu'on a investigué autour de la station, et en plus de ça, on a fait tout un transept, donc toute une longue étendue jusqu'à la côte, donc plus ou moins 200 km d'échantillonnage. Et alors, on a échantillonné proche de la côte, puisqu'il y a une toute autre circulation atmosphérique à la station qu'à la côte. Et donc, on a pu investiguer ces deux pans pour avoir des données un peu plus de l'intérieur des terres, si je peux dire ça ainsi, proche de la station, et plutôt des sources de poussière côtières, pour cette fois-ci aussi.
Alors, vous le mentionniez un peu plus tôt, il y a des poussières qui sont issues de roches, d'autres qui sont d'origine anthropique. Finalement, quel est le type que vous retrouvez le plus sur place?
Alors, fort heureusement, en Antarctique, pour l'instant, on n'en retrouve pas tant que ça. Fort heureusement, on a déjà généré des poussières anthropiques jusque-là, mais en moins grande quantité que, par exemple, au Groenland ou dans d'autres glaciers autour du monde. Donc ça, c'est assez rassurant. Alors, comment on arrive à les pister? C'est tout simplement, en fait, en plus de nos analyses géochimiques des 14 éléments dont je vous ai déjà parlé, on analyse en plus de ça les éléments chimiques qu'on appelle métalliques, c'est-à-dire par exemple des éléments tels que le plomb ou l'uranium et autres, ou des éléments chimiques en fait simplement qui pourraient nous renseigner et qui sont particuliers d'une émission anthropique. Donc par exemple de potentiels bateaux qui seraient pas loin de l'Antarctique pourraient générer par leur cheminée quelques particules qui ne devraient pas s'y retrouver par exemple, ou alors tout simplement des industries qu'on peut retrouver sur les zones génératrices de poussière qui se mêleraient aux poussières naturelles, si je peux dire ça ainsi, de la zone étudiée et qui arriveraient jusqu'en Antarctique tout simplement.
Nous sommes de retour avec Sybille Boxo, géologue et doctorante au laboratoire J-Time de l'ULB, qui revient tout juste d'une mission de 2 mois en Antarctique pour étudier les poussières de roches présentes sur le continent. Alors Sybille Boxo, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, ces études sont relativement récentes. Est-ce que les sources et le transport de ces poussières que vous étudiez sur le continent antarctique, est-ce qu'elles sont déjà bien identifiées? Finalement, quelles sont encore les grandes questions qui entourent ces recherches?
Alors, pour l'instant, il y a encore pas mal de grosses questions. J'essaie d'en investiguer le plus possible, notamment avec ma thèse. Donc, on a encore énormément de questions, mais de plus en plus, on comprend les mécanismes autour de ces poussières et génératrices de ces poussières. Donc, on avance beaucoup plus qu'il y a quelques années, et de plus en plus, même, c'est ça qui est super intéressant en science. On remet même en question, parfois, ce qu'on avait peut-être étudié avant, et on se rend compte, tiens, c'est peut-être pas tout à fait, on le nuance. Et donc, à force de nuancer, de se poser de nouvelles questions, on trouve toujours de quoi investiguer, surtout dans le domaine des poussières, à ce niveau-là. On est bien servi.
Alors vous avez, au cours de cette mission que vous avez menée de décembre à février dernier, travaillé à installer une station d'échantillonnage pour avoir accès tout au long de l'année à des prélèvements. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir cet accès aux données tout au long de l'année ?
Alors en fait, avant, les études qui étaient menées, c'est qu'on récoltait un seul échantillon qui représentait l'année complète. Alors c'est très intéressant, c'est vraiment super de voir l'évolution à travers les années, c'est vraiment chouette, mais alors il faut, voilà, c'est un autre type d'observation. Nous, ce qui nous intéresse ici par cette étude, c'est de comprendre, voilà, saisonnièrement, c'est-à-dire mois par mois, ou grande saison par grande saison, est-ce qu'au printemps, en été, en automne, en hiver, on a le même type de dépôt de poussière qui arrive en Antarctique? Ou est-ce que, par exemple, justement, en hiver ou en été, on se rend compte que c'est plutôt cette zone-là qui génère des poussières et qui arrive en Antarctique? Ou inversement, c'est une autre qui en génère un petit peu plus, un petit peu moins? Et en fait, essayer de comprendre, justement, ces variations nous fera un peu plus comprendre, justement, s'il y a des changements globaux dans les circulations atmosphériques autour de l'Antarctique et dans l'Antarctique même, justement. Voir un petit peu. En hiver, c'est plus difficile d'accès à l'Antarctique. Et donc, enfin, l'hiver pour l'hémisphère sud, évidemment. Donc, pour nous, l'été, ici, dans l'hémisphère nord, l'accès est beaucoup plus difficile. Il est possible. Il y a des personnes qui font des hivernages là-bas et qui mènent des études. Mais la majorité des études que nous, on mène, sont assez difficiles dans les conditions hivernales. Et donc, pouvoir être... enfin, disons, obtenir des échantillons, même quand on n'est pas là, c'est toujours très intéressant pour comprendre comment ça se passe, alors qu'on n'a pas un œil dessus. Donc là, on essaye de plus en plus d'avoir, en fait, un œil sur ce qu'on n'est pas normalement capable nous-mêmes d'échantillonner en présentiel, si je peux dire ça ainsi.
Et est-ce que vous pouvez décrire l'instrument que vous avez installé concrètement, comment est-ce qu'il fonctionne ?
Alors, donc c'est un tout nouveau prototype qu'on a mis en place en collaboration avec les ingénieurs de l'ULB. Alors, c'est un pareil, disons, qu'il est assez simple quand on réfléchit au principe. C'est qu'il y a donc quatre pots qui vont chacun leur tour récolter des précipitations de neige. Donc là-bas, il y a souvent de la neige qui tombe en Antarctique. Quand la neige tombe en Antarctique, nos poussières aussi se déposent. Et donc, on a placé l'appareil assez haut, donc il est sur un énorme piquet à 3 mètres de hauteur, 3-4 mètres, et un peu au-dessus, c'est un cône où il y a juste un trou. Et en fait, ce trou se place à chaque fois au-dessus d'un seul pot. Il va rester au-dessus de ce pot pendant 3 mois. Et après 3 mois, il va y avoir un mouvement de ce cône, et donc le trou va se déplacer vers un autre pot. Et il va rester à nouveau 3 mois, échantillonner 3 mois de poussière, et ainsi de suite. Et il va compléter ainsi un tour complet, et donc alimenter en neige, et donc en poussière, les 4 pots, les 4 échantillons de poussière, de neige, pardon, qu'on va récolter du coup l'année prochaine. Donc pour l'instant, disons que j'ai installé la machine là-bas sur place. Elle tournait très bien quand je suis partie. On a vérifié qu'elle avait suffisamment d'énergie grâce à un système de batterie et de panneaux solaires, que pour justement l'alimenter même pendant les périodes assez froides et assez mouvementées en termes de tempêtes. Et normalement, il pour l'instant, il tourne toujours, on espère. On n'a pas un œil dessus puisqu'il est installé assez loin de toute présence humaine. Et donc l'année prochaine, on découvrira si ça a fonctionné et si on a bien récolté du coup nos 4 échantillons de poussière qui vont chacun représenter 3 mois, donc une année complète de précipitations de poussière et de neige.
Alors vous l'avez mentionné, hein, cet instrument a été installé loin de toute présence humaine. Vous avez donc dû vous-même l'y installer. Comment s'est passée pour vous cette expédition ?
Ah, mais c'était vraiment très intéressant. C'est vrai que la majorité de l'expédition, j'étais aux alentours de la station. Mais alors, on a eu une grosse semaine où on est parti sur le terrain, donc à 160 km de la station. Donc, je suis partie avec un guide polaire entraîné pour les milieux, disons, compliqués tels que l'Antarctique, pour installer du coup cet appareil et en même temps, à côté, mener d'autres analyses et récolter d'autres échantillons. Donc, tout simplement, en fait, là-bas, on a campé sous tente. On a campé pendant une semaine au milieu de l'Antarctique. Quelque chose d'assez fantastique, en soi.
Oui, j'imagine que ça doit être particulier. Et l'installation a duré elle-même une semaine. Vous avez dû profiter pour faire d'autres recherches ?
Oui, en fait, l'installation en elle-même n'a duré que 2 jours. Mais alors, en plus de cette installation de machine, on a dû réaliser une étude sur des tranchées. Donc, c'est-à-dire qu'on a creusé un trou, tout simplement, un trou de 2 mètres. Et alors, ces 2 mètres, normalement, de profondeur, représentent l'accumulation et la précipitation, surtout de neige, pour une année. Donc, en fait, les 2 mètres de neige que j'avais en face de moi dans ce trou, ça représentait une année complète. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai segmenté la paroi en différents niveaux, donc en espérant que chacun de ces niveaux, pardon, représentait plus ou moins un mois de précipitation de neige. Donc j'ai dû observer la neige, les changements, est-ce qu'elle était par exemple beaucoup plus solide, beaucoup plus dense par exemple, est-ce qu'il y avait des changements dans la granulométrie, dans les grains et autres, pour essayer de voir les variations saisonnières, ce qui est vraiment pas facile. Je ne suis pas glaciologue moi-même, donc j'ai dû apprendre heureusement grâce à d'autres glaciologues avant que je parte vite fait les quelques trucs et astuces pour essayer de s'y retrouver dans ce genre de cas de figure. Et une fois que j'avais repéré plus ou moins ces différents étages, j'en ai pris évidemment un peu plus pour être sûr de ne pas me tromper, à ce moment-là, en fait, on a échantillonné à nouveau de la neige sur chacun de ces niveaux pour mener des analyses ici en laboratoire, pour déjà avoir des échantillons et déjà du coup avoir les mêmes analyses exactement dans le même but, c'est-à-dire une analyse géochimique de ces 14 éléments chimiques, les analyses aussi de métaux et autres, tous les éléments chimiques possibles pour en fait à nouveau pister ces poussières de manière saisonnière, puisqu'on n'était pas là l'année dernière lors du dépôt, et donc on a essayé d'échantillonner pour déjà avoir des données. Et le but pour les prochaines missions, pour les prochaines années, ce sera de comparer les précipitations qu'on a récoltées dans notre machine et les comparer avec celles qu'on fait justement nous dans cette tranchée pour voir si ce sont les mêmes et si en fait la machine suffit à récolter des échantillons de poussière bien représentatifs du dépôt de poussière qu'il se fait durant une année. En fait, pour ne pas devoir toujours prendre quelqu'un là-bas sur place et pour faire quelque chose quand même d'assez dur, creuser un trou de 2 mètres de manière très propre parce que vous ne pouvez pas contaminer avec des pelles et autres. Donc c'est très très compliqué. Ça prend un peu de temps, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de se dire une semaine pour un trou, mais oui, il vous faut bien une semaine pour creuser un trou et pour après prélever vos échantillons. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, puisque vous devez le faire dans des conditions très particulières, très propres, et c'est parfois très compliqué. Donc si on peut se faciliter un peu la vie et avoir justement plutôt une machine qui récolte directement ces échantillons de précipitation, sans aucune contamination, on sera beaucoup plus rassuré sur nos échantillons.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les analyses que vous menez ici en laboratoire? Comment ça se déroule pour vous d'étudier ces échantillons?
Alors quand les échantillons arrivent, ils ont la forme du coup d'une grosse bouteille de 10 litres de neige que je fais fondre à température ambiante pour essayer de ne pas que mes poussières se dissolvent. Donc c'est très important que quand mes échantillons arrivent, ils soient toujours sous forme de neige et non pas fondus, parce que sinon mes échantillons seraient perdus dedans, puisque les poussières ça peut très vite se dissoudre dans de l'eau comme c'est là. Et donc automatiquement, voilà, il faut que je le fasse de manière très contrôlée en laboratoire. Une fois que c'est fait, je filtre tout ça. Ça peut paraître un sacrilège pour les glaciologues de filtrer comme ça de la neige. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dedans, c'est les poussières. Et donc, ce qui m'intéresse tout à la fin de cette filtration, c'est juste un filtre où vous avez toutes les poussières qui étaient présentes, pardon, dans cette bouteille de 10 litres de neige. Et ensuite, ce filtre, je vais l'attaquer à l'acide, c'est-à-dire essayer de faire tomber toutes les particules dans une solution d'acide pour ensuite les faire passer dans une machine qu'on appelle un ICP-MS. Donc c'est qui va mesurer en fait les différents éléments chimiques présents dedans avec une très haute précision. Et une fois que j'aurai du coup mes éléments chimiques dedans et leur concentration, je pourrai alors du coup mener vraiment, essayer de comprendre en fait ce qu'il se passe et comment ça se passe tout simplement.
Alors on arrive doucement au terme de cette émission, mais finalement pourquoi l'Antarctique est un terrain de prédilection pour ce genre d'études? Quelle est sa spécificité?
Alors déjà l'Antarctique, tout simplement, ça fait rêver. C'est une terre encore très peu connue, très hostile, et donc on a envie de mieux la comprendre, de mieux surtout aussi la préserver, parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a très peu d'accès pour ces terres assez isolées, assez compliquées en termes de météo, de climat, et donc automatiquement c'est un endroit où il y a très peu pour l'instant encore d'impact de l'être humain. Et c'est des endroits aussi qui sont très sujets au changement climatique actuel. On peut observer assez facilement du coup ces changements, et automatiquement on aimerait bien comprendre comment limiter ces changements, surtout d'un point de vue climat, et essayer de comprendre un peu mieux aussi des endroits encore protégés de l'être humain. Voilà, l'être humain est partout sur Terre, c'est très bien, sûrement, mais il y a encore des zones qu'on a très difficile d'accès pour lui, et qu'il n'a pas encore pu, si je puis dire, saccager, ou en tout cas contaminer avec son industrie, ou avec tout élément que l'évolution nous a amené. Et c'est vraiment intéressant de voir un endroit comme ça préservé et naturel. On comprend mieux en fait les phénomènes qui étaient là à la base, les phénomènes vraiment naturels qui opèrent sur place, ce qui est très intéressant.
Merci beaucoup Sybille Boxo.
Pas de soucis, merci à vous.
Alors je rappelle, vous êtes géologue, doctorante au laboratoire J-Time de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le lien du podcast sur radio.be, radio.fr. Encore merci.